Le journal Thérèse Bassoubi. La Cour suprême de justice a été incendiée hier. Notre reporter René Capita est sur place. Il nous fera l'état des lieux de ce à quoi ressemblent présentement les installations de cette institution. Des élèves obligés de payer la traversée d'une rivière pour se rendre à l'école. Cela se passe au village Kabilengu dans le Kasaï occidental. Et pour cause, le bac qui les transportait gratuitement est tombé en panne. Au sud Kivu, 5000 hectares de culture vivrière complètement détruites à Kaziba. L'alarme est lancée par les associations de développement local qui craignent même la famine pour ces populations. Voilà tout pour les... Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Okapi. Le vice-président en charge de la commission politique, défense et sécurité, Azarias Roubéroy, ainsi que le gouverneur de la ville, viennent de se rendre à la Cour suprême de justice pour constater les dégâts causés par les incidents d'hier. René Capita, qui est sur place, nous décrit l'état dans lequel se trouve la Cour suprême aujourd'hui.
Les abords de la Cour suprême de la justice offrent encore un spectacle désolant cet avant-midi. Lorsqu'on s'en approche, on est tout de suite frappé par l'odeur de la fumée qui s'y dégage. Les bâtiments du protocole et des deux conteneurs placés derrière le bureau des magistrats montent encore une fumée noire. Dans la cour intérieure, on voit traîner des papiers brûlés, mais aussi des restes des machines à dactylographier et des débris de meubles cassés. Du côté de la maison communale de la Gombe, les tableaux n'est pas non plus beau à voir. Les portes, autant que les fenêtres, ont été arrachées. Du papier et des restes des meubles gisent par terre devant cet édifice municipal. Il faut signaler aussi que la Cour suprême de justice et la maison communale de la Gombe sont pour l'instant sécurisées par un bataillon des FRDC. Les blindés de la MONUC visibles dans les coins sont stationnés à environ 100 mètres de la Cour suprême de justice. Notons enfin que pour l'instant, le vice-président en charge de la commission politique, défense et sécurité et le gouverneur de la ville effectue un tour d'inspection afin de se rendre compte des dégâts causés par les manifestants. Depuis la Cour suprême de justice, René Capita pour la Radio Okapi.
Toujours dans le même dossier, le président de la République du Congo, Sassou Nguesso, déplore les incidents d'hier mardi à la Cour suprême de justice à Kinshasa et appelle les Kinois au calme. Le chef de l'État du Congo, Brazzaville, et président en exercice de l'Union africaine, l'a déclaré hier depuis sa résidence en France où il est en convalescence. Le point avec Arsène Séverin depuis Brazzaville.
C'est depuis sa résidence privée de France où il passe sa convalescence que Sassou Nguesso a réagi aux incidents de mardi à Kinshasa. Il a déploré et s'est échauffouré avant d'appeler les Kinois au calme en attendant le verdict que va rendre la Cour suprême de justice, car pour lui c'est une étape importante du processus. Sassou Nguesso s'est d'ailleurs réservé de tout appel en l'endroit de Joseph Kabila et de Jean-Pierre Bemba à la suite des résultats publiés la semaine dernière par la Commission électorale indépendante. Il faut d'abord attendre le verdict de la Cour suprême, car c'est une étape importante pour l'heure. Nous ne disons rien, a déclaré le président en exercice de l'Union africaine. Le processus électoral a été difficile, la RDC étant un pays immense, a rappelé Sassou Nguesso. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
Où sont passés les milliers de dollars américains, dont de certains politiciens de Kinshasa pendant la campagne électorale présidentielle, à des écoles, à des sportifs ou aux étudiants de Goma dans le Nord Kivu? À l'Institut Mendelo, par exemple, des travaux de réhabilitation ont été effectués seulement dans deux salles de classe, alors qu'une somme de 10 000 dollars américains avait été versée par Olive Lembe, épouse du chef de l'État. Aussi à l'Université de Goma, certains étudiants sont suspendus de cours. Ils sont accusés de détournement par le comité de gestion. Et le feuilleton est loin de se terminer. Sylvestre Kilolo.
30 000 dollars américains, c'est le montant global réceptionné par les maires de Goma, Polydor Wundi, fonds libéré par l'honorable Moïse Katumbi, président du TP Mazembe de Lubumbashi, alors en campagne à Goma pour les comptes du candidat Joseph Kabila, en vue d'appuyer différentes institutions à Goma, notamment les fonctionnements des comités des étudiants de Goma, la réhabilitation du marché central de Virunga et la réhabilitation du stade de l'unité de Goma. La délégation estudiantine n'a pas hésité à se partager ces 10 000 dollars, ce qui n'a pas tardé à susciter des tensions au sein des différents comités étudiantaires des universités et instituts supérieurs. À l'université Goma, par exemple, le président du comité des étudiants vient d'être suspendu pour mégestion. À l'Institut Mandeléo, les responsables exhibent deux salles de classe en construction. Pour eux, les travaux ont englouti les 10 000 dollars reçus, dont de l'épouse du chef de l'État, Olive Lembe. Ils ajoutent que les enseignants ont également bénéficié de leur motivation de la même somme. Côté stade de l'unité, par contre, rien n'a encore été fait. Certains sportifs crient déjà au détournement des 10 000 dollars destinés à la réhabilitation du stade. Mais les maires de Goma rassurent les uns et les autres. Polydore Wundi Kwavirwa.
J'attends jusqu'à ce que le comité soit mis sur pied pour que je remette l'argent et bel et bien garde.
Notons enfin que la réfection d'une partie du marché des Virunga endommagée par l'ouragan est effective avec 10 000 dollars. Les responsables du marché estiment toutefois que l'ensemble des travaux réclament au moins 30 000 dollars. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
À Ouvira, dans le sud Kivu, de plus en plus d'ex-combattants démobilisés regagnent les groupes armés dans les hauts et moyens plateaux de la plaine de la Ruzizi. Ce constat vient du responsable culturel de l'ONG Mission des Jacobins Sages d'Ouvira. Selon Amissi Mwarabu, ces enfants démobilisés seraient marginalisés par leur communauté. Hier mardi, la Mijaz est allée sensibiliser la population de la plaine sur l'acceptation de ces enfants et démobilisés dans la communauté et promouvoir aussi leurs droits. Les détails avec Bungumba Tanganyika.
Le spectacle culturel organisé par la Mijas a réuni plusieurs centaines de personnes, les autorités civiles et les militaires de la 112e brigade de Luvungi. Des spectacles présentés au public de Luvungi consistaient à corriger le mœurs local par la comédie. Ces sketchs ont été suivis d'un théâtre débat qui a permis au public de réagir par rapport aux problèmes des enfants et de ses combattants et de démobiliser. Dans sa réaction, le chef de poste administratif de Luvungi, Seth Imurefu, a indiqué que l'assistance apportée par les ONG pour la réinsertion socio-économique des démobilisés serait insuffisante. Selon lui, la pauvreté observée dans le milieu, les filets de sécurité ainsi que l'allocation mensuelle dont bénéficient les démobilisés les mettraient à conflit avec leur famille. Il a souhaité que ce type de sensibilisation soit multiplié même dans les hauts et moyens plateaux, précisément à Lubarikan, à Lundolera et à Kaungwe, qui sont des régions où ces enfants et ex-combattants démobilisés seraient recrutés de nouveau. Quelques ex-combattants démobilisés ont regretté cette marginalisation. Selon et certains parents refusent de payer l'école à leurs enfants démobilisés pour qu'ils se débrouillent avec les primes mensuelles de la CONADER. Depuis Uvira, Bugumba Tanganyika, Radio Okapi.
Direction l'ouest du pays, à l'équateur, dans le territoire de Djolu, des armes, des engins explosifs abandonnés un peu partout inquiètent la population. Pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, notamment pour aller aux champs, les habitants de Djolu doivent prendre des chemins détournés pour les éviter. La situation est décriée par la société de Djolu qui attire l'attention des autorités à prendre leurs responsabilités pour sécuriser la population. Jean-Marie Bolika, responsable de l'ONG Initiative Locale pour le Développement intégral, est au micro de Régine Beaucoup.
Nous avons fait les constats. Il y a présence des engins non explosés à travers le territoire, particulièrement au niveau du chef-lieu des territoires. Il y a dans les entrepôts de l'entreprise AgriPro, il y a beaucoup de bombes qui sont sur place, qui ont été stockées, qui appellent vraiment l'attention du gouvernement et de ses partenaires pour qu'on aille détruire ces bombes-là. Imaginez qu'aujourd'hui nous sommes dans la période post-électorale et qu'il y a des mouvements de démobilisés dans la région. Ça demande vraiment que l'État prenne des dispositions. Non seulement au niveau du chef-lieu du territoire, mais un peu à 60 km à Lingomo. J'ai visité personnellement la maison du chef de secteur qui abrite aujourd'hui le commandant de la police du sous-siat de Lingomo, où lui et sa famille vivent autour des bombes. D'autres sont à moitié ouvertes et qu'il y a risque qu'on puisse assister à une explosion.
Notez que le gouverneur de province a même demandé le concours de la MONUC Bandaka pour déplacer ce dépôt d'armement. Selon le chef du bureau de la MONUC, sa requête est déjà transmise à l'échelon supérieur. Très bientôt, indique-t-il, une solution sera trouvée à ce problème. Mais en attendant, le danger demeure. Revenons au sud Kivu, où une semaine après des fortes pluies qui ont causé la mort de 8 personnes à Kaziba, à environ 50 km au sud de Bukavu, le bilan de dégâts reste lourd. Toutes les cultures de la vallée ont été détruites. Reportage de Dieudonné Bagalois.
En plus de quelques maisons emportées et trois ponts endommagés par les eaux de pluie de mercredi dernier, Plus de 5000 hectares de cultures vivrières ont été détruites. Haricots, maïs, sorgho et légumes dont dépend la population locale. Une situation grave selon Balem Bachigougué, agronome de chefferie chargé de l'alimentation.
Notre millier, c'était un millier tout d'abord endémique de la malnutrition. Et avec ces dégâts qui ont été causés au niveau des champs, la malnutrition, la prévalence risque maintenant d'augmenter. 90% aussi même de la terre cultivable qui a été attaquée, alors qu'on attendait déjà la récolte des haricots. Nous pensons que d'ici là, on aura la famine au niveau des Kaziba.
En effet, selon les associations locales de développement, ce sont près de 5000 ménages vivant essentiellement de l'agriculture qui sont concernés. Cette localité, située au pied d'une chaîne de collines, reste en proie à de nouvelles inondations, surtout en cette saison pluvieuse. Dieudonné Bagaloua, Bukavu, Radio Kapi.
Plus de 120 élèves du village Kabilengu dans le territoire de Tchikapa au Kasaï occidental éprouvent des difficultés pour leur scolarisation. Ils sont obligés de payer 100 francs congolais chaque jour au pirogué pour traverser la rivière afin d'atteindre leurs écoles. Pourtant, cette traversée se faisait gratuitement avant que le bac ne soit tombé en panne. Reportage de Pierrot et la Mégie.
L'accès aux cours devient de plus en plus difficile pour ces enfants habitant de l'autre côté de la rive, à 2 km des Kamounia. D'après Joseph Bitema de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, cette situation est à la base d'un retard de 2 heures aux cours et de leurs multiples absences. La Linapedo dit avoir mené plusieurs démarches auprès des piroguiers, mais sans succès, afin de réduire la somme. Contacté, l'administrateur du territoire des Tchikapa dit avoir inscrit cette question dans les priorités de son entité. Hubert Koulumfoufoui affirme qu'une rencontre est prévue entre les responsables du BIEF, les piroguiers et les parents d'élèves. C'est là pour décanter la situation et permettre à ses enfants de fréquenter l'école sans difficulté. Joseph Bitema ajoute que le rétablissement du bac sur la rivière reste la meilleure solution. En attendant qu'une solution soit trouvée, ces élèves ont encore des heures de discussion avec ces quelques 22 piroguiers pour atteindre leur lieu de formation. De Kananga, Pierrot et la Mégie, Radio Okapi.
Et puis dans la province du Bas-Congo, hausse des prix des biens de première nécessité dans la cité de Tchela, à 210 km de Matadi. Un sac de riz qui se vendait à 8 000 francs congolais il y a de cela 3 jours se négocie aujourd'hui à 9 000. Même situation pour une course de taxi Tchela-Boma. Elle est passée de 2 000 francs à 3 000 francs congolais. Selon les responsables locaux du bas-fleuve, plusieurs raisons sont à la base de cette flambée des prix, notamment la carence du carburant. Dani Kindanzita, reportage.
D'après Maître Kamoulete Pierre, commissaire de district du Bas-Fleuve, cette flambée des prix se justifie d'une part par la dépréciation du franc congolais face au dollar américain et par la carence des produits pétroliers d'autre part. Les commerçants de Tchela évoquent aussi l'état de délabrement avancé des routes Kinzaoumbete-Monterne et Monterne-Tchela. Maître Kamoulete Pierre déplore le fait qu'un grand district comme le Bas-Fleuve puisse dépendre du carburant provenant de l'Angola. D'après lui, cette hausse des prix est constatée sur tous les biens de première nécessité. Une bouteille de bière qui s'est négocié à 400 francs congolais. Aujourd'hui, il est vendu à 600 francs congolais. Le prix de transport entre Tchela et Boma est passé de 2 000 à 3 000 francs congolais. Il a indiqué que cette situation découle de la décision des autorités angolaises. Décision qui, rappelons-le, interdit le trafic de produits pétroliers angolais vers l'extérieur. Une rencontre a été prévue entre les cadres du district du Bas-Fleuve et les autorités angolaises pour trouver une solution à ces sujets. Jusqu'à l'heure actuelle, la rencontre n'a pas eu lieu. À noter que dans tous les districts du Bas-Fleuve, il n'existe aucune station de vente de carburant. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
L'actualité en dehors de nos frontières à présent, plusieurs employés de l'industrie pétrolière ont été pris en otage dans le sud du Nigeria lors d'une attaque lancée par des militants dans la nuit dernière contre le bateau d'une filiale de la firme pétrolière italienne Eni. Et puis le pape Benoît XVI a condamné fermement ce mercredi l'attentat qui a coûté la vie hier au ministre libanais de l'industrie Pierre Gemayel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net ou en ondes courtes sur 11 890 kHz.